Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Leonidas Calogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Gilles Ravot, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé au seuil. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Un patronat qui bégait, Gilles Ravot, ça vous inspire une réaction ?
Ce qui est vrai que bon, c'est toujours des réflexions de fond qu'on fait ici. Et je sais pas combien d'années ça fait que je viens ici. J'essaie de me rappeler ce matin, de me dire la combien thème d'émissions que je fais avec vous. Et je vous remercie vraiment beaucoup de m'inviter ici, vraiment. C'est sur le système éducatif. Là aussi, hein, franchement, je cherche pas du tout spécialement à massacrer le gouvernement actuel, mais on voit que dans tout ce que vous dites, on n'a pas avancé d'un iota, mais des deux côtés, sur la complémentarité entre système éducatif et entreprise. Enfin, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des individus partout, qu'il y a des profs de collège, il y a des profs de lycée, qu'il y a évidemment des gens dans les entreprises qui demandent que à ce que, enfin, on ait une articulation intelligente, mais profonde, organisée entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Je pense que on est resté dans des clichés sur les vieux profs anticapitalistes, etc. Quand on regarde, par exemple, la sociologie électorale, les votes, par exemple, le premier vote des enseignants, c'est Macron.
Donc, ça a changé.
Ça a beaucoup changé.
Il est vrai
beaucoup
que la sociologie
changé.
Électorale
ça a beaucoup changé. Le syndicalisme
on
enseignant.
On n'est plus sur prof socialo des années 70.
Et permettez-moi de saluer 600 000 entrepreneurs dans les écoles qui a fait énormément pour cette
évolution. On n'en est plus tout là, mais on voit bien.
Non, mais il y a des très belles expériences, Léonidas, mais c'est pas massifié.
On voit bien.
Et c'est pas les entrepreneurs avec leur bonne volonté qui vont massifier.
C'est ça. Et on voit bien que
c'est les changements sociologiques qui se font dans la durée et ils se font en démarrant.
Ce qui est très clair, c'est que au bout de bientôt 7 ans d'Emmanuel Macron, on n'a pas avancé d'un centimètre là-dessus et que clairement, ça va pas non plus. C'est pas du tout prévu. Personne n'en parle au niveau du gouvernement. C'est quand même magique. Alors que ça, justement, c'est des réformes intelligentes, structurelles, profondes, qui ne coûtent rien. C'est avant tout des problèmes d'organisation et de volonté politique au sens fort. C'est quand même absolument dingue.
On va laisser sa chance à la nouvelle ministre.
Oui, évidemment.
Bon, vous avez pas l'air d'y croire.
Et sur le patronat, pardon, parce que voilà, je sais bien que j'ai face à moi des créateurs de richesses, alors que moi, je ne suis qu'une méchante dépense publique qui creuse le trou de la dette chaque jour un peu plus. Les enquêtes internationales sur les relations au travail, qui sont très approfondies, hein, qui, pardon, sont faites par des chercheurs avec des centaines, voire des milliers de questions sur des années, etc., nous montrent de façon extrêmement nette que sur tout un grand nombre de sujets, le patronat français est le pire d'Europe. C'est-à-dire qu'en termes, justement, de non-valorisation du sens du travail, de procédures hiérarchiques, etc., etc., on a, je suis désolé, un vrai problème. Je sais pas exactement d'où il vient. De management à la française, c'est archi-documenté. Thomas Philippon, on avait parlé il y a longtemps dans un livre, etc. Et donc là, voilà, la balle est du côté des
Laurent, patrons, Laurent, par rapport à peut-être la dernière remarque de Gilles sur le défaut du management à la française et sinon sur les relations entre entreprises et système éducatif qui, c'est vrai, est un parent pauvre encore aujourd'hui, en dépit des différentes initiatives qui sont réelles et bien concrètes, dont on n'a déjà pas. La Fondation Croissance Responsable, je crois bien que c'est un peu son idée malgré. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ?
Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce que vous dites, nous avons lancé un projet qui s'appelle Espérance Banlieue, où en clair, c'est pas un think tank, on n'est pas en train de réfléchir aux multiples causes de ce qui ne fonctionne pas. On n'est pas le énième rapport Théodule. Nous, on ouvre des écoles. Et donc, cette année, on a célébré nos 10 ans. On ouvre notre 18e école. Donc là, on est dans les tranchées.
On rappelle que ce sont des écoles.
C'est extraordinaire.
On rappelle que ce sont des écoles qui sont systématiquement, ou en tout cas pour la plupart d'entre elles, ouvertes dans des endroits où la vie est difficile.
Voilà. Oui. Et c'est un euphémisme.
La vraie vie.
Bon. C'est-à-dire, on a même des visiteurs qui, dans certains cas, refusent même de sortir du RER. Ils sont un petit peu émus, mais bon, c'est pas grave. Donc, simplement, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est effectivement, Nicolas a parfaitement raison, l'idée, c'est de massifier. Et nous, cette idée a commencé parce qu'on voulait montrer que, précisément, tout ce qu'il était impossible de faire à cause de la bureaucratie, à cause de la... Il y a toujours une bonne raison pour pas faire ci ou pour pas faire ça, eh ben nous, on l'a fait. Bon, et on l'a fait concrètement et on a ouvert des écoles. Alors, je parle de ça parce que l'histoire de l'éducation, je veux dire que c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui revient de façon inlassable depuis 30 ans, 40 ans. Je pense que si on rattache ça à une petite musique qui est devenue une grande musique grâce à ce qu'ont fait nos camarades agriculteurs, c'est les questions de simplification, de bureaucratie, de poids, si vous voulez, des normes, des réglementations en tout genre. On s'aperçoit que ça, pour le coup, c'est vraiment un mal français. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a une idée, il faut qu'on ait 15 types pour légiférer, créer une norme, créer une règle, et en plus des règles contradictoires entre elles. Et l'éducation, malheureusement, n'échappe pas à ces règles. Bon. Donc ça, c'est mon petit commentaire sur ce que vous décrivez. Et vous, si un jour nous avons le plaisir de vous accueillir dans l'une de nos écoles, vous verrez que ce qui est formidable, c'est qu'on n'a rien réinventé, mais on fonctionne en circuit court. C'est-à-dire qu'on est proche, du terrain. Maintenant, sur la question du patronat, je dois vous dire qu'à chaque fois que j'entends le mot patronat, j'ai un peu l'impression d'être, vous savez, de revenir en arrière à la fin du 19e siècle. Alors, quand j'étais enfant, c'était très divertissant d'écouter Monsieur Marchais. Mais je dirais que je me reconnais pas dans ces propos-là. Je dis pas qu'on est parfait, mais moi, j'appartiens à une association d'entreprises de croissance.
Donc, croissance plus.
Voilà, croissance
qui
plus.
Qui n'est pas un syndicat patronal au même titre que ces PME, UDP ou MEDEF.
Et qui n'est pas un organisme paritaire. C'est-à-dire on n'est jamais appelé à la table des négociations et on n'appartient pas.
Parce qu'il fallait être là en 1966. Avoir la présomption irréfragable de représentativité. Cette phrase. Présomption irréfragable de représentativité.
Ça sent beau,
il fallait quand même la sortir, celle-là.
Mais la question qu'on peut se poser, au même titre, après, je veux dire que chacun rejoint l'organisation qu'il souhaite, que ce soit au niveau syndical ou professionnel, mais la question qu'on doit se poser, me semble-t-il, c'est est-ce que les instances à qui on confie notre avenir dans le monde du travail sont-elles aujourd'hui, au 21e siècle, représentatives de ce qui se passe dans la vraie vie? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Bon. Et après, quand on parle du patronat, c'est comme...
Dans ce que vous dites là, c'est une excellente question. Et encore une fois, on cherche toujours des réformes, mais encore une fois, ça, c'est des réformes qui ne coûtent rien.
Mais personne n'en parle. Mais la simplification, c'est aussi une réforme qui ne coûte rien. Alors maintenant, la question, je vais être un petit peu impertinent, c'est ma petite minute. On peut toujours se poser la question, à qui profite le crime? Et là, je pense qu'il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble. Alors évidemment, le patronat, c'est pas, je dirais, quelque chose de monolithique, même si certains le pensent. C'est un agglomérat de beaucoup de choses. C'est comme les syndicats. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec tous les leaders syndicaux, quels qu'ils soient, parce que j'ai toujours considéré qu'il était important de se parler. Je veux dire que quand on ne se parle pas, là, je dirais, c'est la fin des haricots. Il y a des gens intelligents, mais simplement, il y a des gens qui ont des visions différentes. Toute la question est de savoir, c'est les idées les plus intelligentes, je vous paraphrase par rapport à ce que vous disiez en début d'émission, l'idée c'est de pouvoir faire émerger ces idées intelligentes pour qu'elles deviennent des projets concrets. Là je pense qu'en France, souvent on a une déficience parce qu'on est plus bercé par le dogmatisme. Donc moins de dogmatisme, plus de pragmatisme.
Mais aussi, je pense que l'on peut passer nos émissions, nos journées et nos années à se lamenter sur les gouvernements que nous avons. Ils doivent certainement faire pour le mieux. Et puis, à un moment donné, il y a une espèce de système politico-administratif. Et vous changez les hommes, le système continue. Vous finissez par vous dire...
Pour reconnaître que sur le long terme, c'est vrai.
C'est une réalité. Donc,
on change les hommes et le système continue.
Et comme on change les hommes et le système continue, vous pouvez taper sur les hommes. Mais enfin, à un moment donné, il faut peut-être se demander ce qui lui manque. Moi, je finis par me dire que ce qui manque le plus, c'est que nous prenions notre part. Et nous, c'est les entrepreneurs. Et c'est là que viennent les idées. Et d'ailleurs, il a totalement raison, mon ami, quand il parle d'Espérance banlieue. Je suis allé à Argenteuil, ce qui est fait à Argenteuil est absolument spectaculaire.
À l'inauguration, j'ai trouvé ça spectaculaire.
Non, mais c'est spectaculaire, c'est fait par des gens absolument surdiplômés qui ont choisi d'être là, qui ont une lumière de passion dans les yeux. Et je veux dire qu'il a transmettre, c'est fabuleux. D'ailleurs, toutes les idées, c'est très intéressant, toutes les idées sur les uniformes, sur le rappel de l'ordre, les RG, tout ça est pratiquée dans Espérance Banlieue. Je veux dire, c'est là le think tank de l'éducation nationale.
Le doux tank.
Le doux tank.
C'est pas mal.
Absolument.
Le doux tank. Banlieue, le doux tank.
C'est le doux tank de l'éducation nationale. Bon, et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, comme Laurent Wronski, se sont dit, je vais pas attendre que le gouvernement fasse, que les administrations suivent. Je vais pas attendre, je vais le faire. On va le faire. Et à chaque fois qu'on fait, on gagne du terrain sur une bureaucratie qu'on fait reculer. Juste un mot.
Oui.
L'idée de créer à peu près pour les seniors ce que l'on avait pour les étudiants en termes de placement et de plateforme d'auto-entrepreneurs, c'est une idée que j'ai découverte sur Entrepreneurs pour la République il y a 3 jours et c'est une boîte qui s'appelle StaffMe qui a 10 000 personnes qui travaillent et 800 000 inscrits. Ce sont des étudiants. La transposition sur les seniors, c'est une idée que je trouve intéressante à explorer. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? En tous les cas, c'est une idée certainement plus novatrice que simplement reprendre la litanie de baisser les charges. Bon. Eh bien, ouvrons-nous sur les entrepreneurs, eux, ils font.
Il y a cet auditeur qui s'appelle Cosmos TV qui me dit l'histoire des papis qu'on fait revenir sur les chaînes de montage. Pour lui, c'est du cynisme économique.
Bon, c'est pas du cynisme économique, pardonnez-moi, juste le fait de dire.
Juste une réponse, et puis après on passe à la suite.
Donc je m'adresse, alors je pense que c'est pas son nom de baptême à ce monsieur.
Non, je pense pas.
Mais nous on a un collaborateur qui était dans notre usine, qui est parti à la retraite à 70 ans. Alors un jour j'ai raconté cette histoire et donc j'ai eu droit à une petite de critique, vous voyez. Je veux dire, je pense que la personne devait imaginer qu'on l'avait menotté à son établi. Alors, dans la vraie vie, c'est un peu différent. C'est-à-dire que cette personne qui avait 70 ans, je veux dire que, je ne vais pas donner son nom, mais je l'ai embauché à 58 ans. Et je vais vous raconter pourquoi je l'ai embauché. Parce que je lui ai dit, mais à 58 ans, pourquoi vous cherchez un job? Vous pourriez vous mettre en roue libre. Il m'a dit, attention, si je ne travaille pas, je vais être considéré comme un vieux. Et donc, les papis qu'on a fait revenir au Japon, ils se sont tout d'un coup, je veux dire, ils ont été utiles. Je veux dire, ils ont fait autre chose que de jouer au bingo toute la journée. Et ils sont devenus partie intégrante de la société. Ils étaient en contact avec des jeunes, des moins jeunes. Et donc là, ils ont créé des liens sociaux. Je suis pas en train de vous faire, je dirais, le monde magique de oui-oui, mais c'est ça le problème. C'est que quand vous êtes utile, quel que soit votre niveau d'utilité, vous êtes intégré. Quand vous êtes inutile, vous êtes sur le côté.
Trois secondes pour
vraiment
dire
court,
que...
Hein,
non,
parce
mais
que...
la valorisation du travail dont Laurent Wronski est en train de parler, moi je suis très très inquiet dans le discours de politique générale. Lorsque Gabriel Attal dit, j'ai demandé à mes administrations de tester la semaine de 4 jours, ou en 4 jours.
Oui.
La semaine en 4 jours. Je trouve que cette espèce de pente qui consisterait à dire...
Bah, Léonidas, il fallait changer les curseurs. Là, dès qu'on touche à quelque chose, c'est pas bien.
C'est très divertissant cette émission ce matin.
Il est où la progression?
Oui, pardonnez-moi.
Ce sujet-là, on n'arrête pas d'y toucher
depuis 30 ans, d'aller laminer la place et l'importance du travail en France. Les 35 heures, si vous pensez.
Attendez,
que ça a été
on n'est pas
bon
du tout sur les 35 heures. Hein.
Non, mais.
En tout cas, le point de départ n'a rien à voir.
Non, mais on dirait que constamment, il s'agirait d'arriver à s'affranchir du travail d'une manière ou d'une autre. On se calme 2 minutes. Enfin, voilà, je pense que le travail est une source d'émancipation. Et ce qu'a dit Laurent Wronski pour le senior qui travaillait encore à 70 ans, en est une emblématique illustration.
On essaie de traiter 3 sujets en 15 minutes.
Oh, oui. On est concis.
Vous vouliez réagir, je ne sais pas ce que diront mes autres camarades, mais sur l'information des Échos, hein, je précise, qui annonce qu'un décret sort demain au Journal officiel pour mettre fin cette année au système de voitures électriques en leasing à 100 euros. On voulait en mettre en place 20 à 25 000. La demande a été colossale, 90 000 demandes réalisées à la fin du mois de janvier. Moralité, le gouvernement est allé jusqu'à en valider 50 000. Il avait prévu donc quelques 300 millions d'euros à l'origine, probablement que la facture sera doublée, puisque chaque véhicule bénéficie d'une subvention publique de 13 000 euros, qui se compose des 7 000 euros de bonus écolo, auxquels s'ajoutent 6 000 euros de primes. Le truc fonctionne, donc on arrête, Gilles Raveau.
Oui, j'aime beaucoup cet objet.
L'objet quoi? La voiture électrique?
La voiture électrique à 100 euros.
Par mois, c'est du mensuel.
100 euros par mois. Donc,
ça compte pas l'assurance, hein, je rappelle.
Bon, donc la logique du système est très facile à comprendre. Donc il y a évidemment une condition de revenu, il ne faut pas que vous gagniez...
15 400 euros Voilà. Le revenu fiscal de référence fiscal, par pas.
Voilà, donc 15 000 euros de revenu fiscal qui, comme nous le savons bien ici, n'est pas la même chose que le revenu réel, mais on ne va pas rentrer dans les détails.
Non, on ne va pas, oui. Voilà, mais je pense que les gens qui ont une petite idée.
Donc 15 000 euros de revenu fiscal par ménage, plus, en gros, sans rentrer dans les détails, il faut que vous ayez besoin d'une voiture pour aller travailler, donc il y a des conditions.
Plus de 8 000 km par an ou 15 km de distance entre domicile et travail.
Et évidemment, il y a l'idée aussi de soutenir, évidemment, donc c'est à la fois une politique sociale et une politique industrielle par la demande.
Oui, parce qu'on veut soutenir du Made in France.
Voilà, sauf que, évidemment, il n'y a pas, justement, il n'y avait pas du tout au début de conditions nationales. Ce dont j'avais alerté les lecteurs dans l'excellent hebdomadaire économique Charlie Hebdo, auquel je contribue.
Elle a été publiée, la liste des bonus des voitures éligibles. Elle a été publiée, la liste des voitures éligibles. Elle est ouvertement réservée. Mais quoi, mais c'est vrai.
Mais ça y était pas au début.
Oui, mais ça y est maintenant.
Et c'est parce que Bruno Le Maire a lu mes articles dans Charlie Hebdo qu'il s'est dit mince. Le dispositif au début était magique, c'est-à-dire que vous alliez utiliser l'argent du contribuable français pour acheter des voitures chinoises.
Oui.
C'était quand même complètement délirant. On n'avait jamais vu un truc aussi débile, pardon de le dire.
Il y avait un côté délirant. Ouais.
Oui, et ça a été corrigé par la suite, plus ou moins. Bon, et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça coûte extrêmement cher. Moi, si vous voulez, 13 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Ça permet effectivement à des gens qui ont des revenus faibles d'avoir des magnifiques voitures neuves, etc. Alors, évidemment, il y a des loups dans le système, c'est-à-dire qu'il y aura la question de l'assurance, et surtout, il y aura la question de la revente, éventuellement, de la reprise de la voiture. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du leasing, puisqu'on sait que le modèle économique actuel, j'ai discuté avec un concessionnaire Dacia qui m'a expliqué ça en disant, effectivement, on vous met des loyers pas chers, et par contre, on vous massacre quand vous rendez la voiture au bout de 3 ans, la moindre rayure, etc., on vous la facture 1 000 euros, pour que vous preniez une nouvelle location. Je cite texto mon concessionnaire Dacia.
Okay. Bon.
Et donc, toujours est-il que là, on a une politique extrêmement coûteuse, qui crée très peu d'emplois et qui, sur le plan social et politique, me paraît, pour le coup, très dangereuse, puisque l'aspect politique social, c'est qu'on a un effet de seuil et qu'évidemment, les gens qui gagnent un peu plus, qui, eux, vont se trimballer leur vieux diesel pendant encore 5 ou 10 ans, qui éventuellement seront exclus des zones de faible émission que certains ont rebaptisé les zones de forte exclusion parce qu'ils ont, des voitures polluantes. Oui. Là, je pense que socialement, ça va être quand même très compliqué. Et donc, je trouve que cet objet montre bien la logique de rustine dans laquelle le gouvernement est entré dans l'ensemble des sujets, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on va y revenir, je peux faire la transition directe, la production industrielle, je cite le patron de l'INSEE, la production manufacturière française n'a pas augmenté depuis 2015. Et donc effectivement, on n'arrive pas à produire plus. Et donc derrière, on soutient artificiellement nos entreprises avec des aides. Les revenus stagnent, donc on soutient artificiellement la demande. Et derrière, évidemment, c'est notre chaire d'aide publique qui explose, etc. Et le bout de l'histoire, c'est que pour maîtriser soi-disant la dette publique, on s'en prend aux plus pauvres. Donc je pense que là, on est rentré dans un modèle qui est extrêmement cohérent, en fait, mais qui dysfonctionne totalement et qui n'atteint aucun des objectifs du gouvernement, ni en termes de réindustrialisation, ni en termes évidemment d'augmentation des salaires, de gains de productivité, etc.
J'achète pas mal votre démonstration. On est bien obligé à un moment de mettre un seuil. Parce que celui qui parcourt pas 8000 bornes, mais 7500, ou alors il est à 14 km de son boulot, éligible.
Ou alors il gagne 16 000 euros par an.
Mais sinon.
Sans côté l'administration qui va devoir contrôler tout ça derrière. Non, mais simplement, c'est vrai que c'est un ingrédient de plus dans la smicardisation de la société dont on est justement en train de vous dire qu'on voudrait en sortir. Donc j'avoue que sur ce sujet-là, vous dites que ça marche. Oui, on donne de l'argent, quand on donne des voitures gratuites, des vacances gratuitement, oui, ça marche.
Mais on l'arrête parce que le succès est trop pas
important. Oui, bon, écoutez,
les éléments d'actualité.
Non, mais vous les avez donnés factuellement, j'avoue que je ne viendrai pas au secours de cette mesure.
Bon, justement, Anne de Guigné, ma consoeur du Figaro, mais elle n'est pas la première à s'intéresser à ce sujet. Elle parle du mythe de la réindustrialisation de la France. On a que ce mot à la bouche, Laurent Wonski. Souveraineté, on met de la souveraineté partout. Écologie, aliments, maintenant, la dernière en date, ça va être quoi? Énergie, industrie. Et elle dit, mais la réalité, et c'est effectivement le chiffre de l'INSEE que vient de citer Gilles Ravoux est absolument validé. En fait, quand vous regardez la production manufacturière, l'évolution de la valeur ajoutée, le poids de l'industrie dans le PIB, il n'y a pas de décollage. On a peut-être commencé à enrayer un phénomène, mais on n'a absolument pas provoqué une sorte de grande réindustrialisation de la France, comme la petite musique savamment entretenue, et c'est normal de la part de ceux qui... non que ce mot-là à la bouche au gouvernement peut le laisser penser. ça vous a fait réagir quand j'ai mis ces thèmes dans l'actualité économique du jour.
Oui, absolument, parce que la réindustrialisation ne se décrète pas en 140 caractères, oui. n'en déplaise à certains. Oui. Et il faut voir d'où on vient. Enfin, moi, je suis industriel depuis 35 ans, hein. Donc, la perte de savoir-faire, je veux dire aussi la perte d'intégrité des territoires, parce que là, pour le coup, quand une usine ferme, quel que soit l'endroit, ça a des conséquences absolument dramatiques. Hein. Enfin, je crois que j'ai pas besoin de l'expliquer à l'antenne.
Non.
Donc, ce débat-là, je veux dire que moi, je le tiens depuis quasiment 35 ans, et je dois dire que souvent, je suis passé pour le passéiste, pour le ringard de service, l'anachronique, enfin le pauvre type qui n'a pas compris que de toute façon en Occident, faire de l'industrie, c'était voué à l'échec, c'est un peu comme fabriquer des fiacres et des machines à vapeur. Donc je vous avouerai, je ne suis pas en train de pleurer à l'antenne, mais pendant 30 ans, ça a été un peu pénible quand même. Hein. La souveraineté, et je le dis très modestement, c'est Croissance Plus qui l'a relancé au moment du Covid. Et c'est nous et votre serviteur qui a créé un groupe souveraineté. Mais la souveraineté, c'est pas, je dirais, des concepts très philosophico-théorique, c'est en clair que j'ai considéré comme une insulte personnelle le fait que la France doive se prosterner pour avoir des masques et du gel qui ne sont pas des microprocesseurs, je dirais, à très forte valeur ajoutée. La souveraineté, c'est simple, c'est ne pas avoir à demander aux autres, je dirais, le droit d'avoir des fruits et légumes, d'avoir des masques, d'avoir des médicaments. Et à la faveur du Covid, nos compatriotes ont découvert qu'un produit aussi bête que le Doliprane ou le sirop pour la toux, eh ben on pouvait aller dans sa pharmacie et on n'en trouve pas. Et pourquoi ? Parce que finalement, c'est les autres qui le fabriquent. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter le libre-échange. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit se recroqueviller comme la Corée du Nord et faire une muraille de Chine. Je dis simplement que quand on a un acte économique et quand le gouvernement, je dirais, a une politique économique, il a aussi des conséquences géopolitique et qu'on peut pas juste s'arrêter au bout de son nez et que la mondialisation, je dirais, vertueuse qui s'équilibre tout seul, je n'y crois pas. Je suis un pur produit de la mondialisation.
Je dis pas avec Jean-Marc Daniel de nombreuses reprises.
Mais je pense que il faut notamment que les règles soient respectées par tous les joueurs qui sont sur le terrain. Et je pense que depuis maintenant 20 ans, nous avons organisé des matchs de football planétaire avec deux équipes sur le terrain et chaque équipe avait son propre jeu de règles et donc ça ne peut pas fonctionner. Et l'équipe qui est sans doute la moins respectueuse des règles, c'est la Chine. Vous avez quantité d'entreprises occidentales qui ont fait du transfert de technologie, qui ont été pillées, pour lequel le droit n'a pas été respecté. Donc, concernant la souveraineté et la réindustrialisation, et j'en aurais terminé, de croire qu'on peut continuer l'exode industriel à marche forcée comme ça a été le cas et qu'il n'y aura pas de conséquences sur notre vie de tous les jours, je considère que c'est naïf et extrêmement dangereux.
Irresponsable.
Nos concitoyens ont pu voir à quoi ça ressemblait quand on voulait des masques, du gel, même de la moutarde et des cornichons. Vous voyez, c'est pas un produit de très forte valeur ajoutée. Eh bien, je dis que par rapport à ce que je vois, je ne lis pas dans les rapports, je suis dans l'industrie du matin au soir. Je pense qu'il est urgent qu'il y ait cette prise de conscience. Mais maintenant, comment ? Et j'en ai terminé. Ça ne se décrète pas, la réindustrialisation. Il s'agit pas d'avoir un esprit éclairé qui va dire maintenant on va réindustrialiser. Il faut créer un environnement compétitif qui va attirer les entreprises et qui va faire qu'on nous choisit, nous la France, pour monter des usines. Mais c'est ça la question fondamentale. Et ça ne se fait pas en 140 caractères.
Et ça ne se fait pas,
je dirais, en une semaine. Oui. On est sur le temps moyen et sur le temps long. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'effet. On vient de redécouvrir les vertus de l'industrie.
Il est trop tôt. Mais en tout cas, c'est la bonne direction.
Et effectivement, je pense que... Enfin, je souscris à tout ce que vient de dire Laurent. D'ailleurs, la grande particularité du mot souveraineté, ça ne veut pas dire que l'on reprenne et que l'on veuille avoir 100% de l'activité et de la production chez soi. Ça veut dire qu'en tous les cas, on est sorti d'un niveau de dépendance. Et ce niveau de dépendance, on l'a effectivement découvert dans son ampleur. Et puis, ça signifie aussi que l'on cesse de regarder le citoyen comme n'étant qu'un consommateur dont l'unique intérêt dans la vie serait d'avoir des t-shirts à 1 euro. Non, c'est aussi un salarié, c'est aussi quelqu'un qui est attaché à un territoire. Et si on enlève toute l'industrie pour aller produire ailleurs à bas coût, eh bien, on est peut-être un consommateur, mais dans un territoire qui est déserté et on n'a plus d'emploi et on n'a plus de savoir-faire. Donc le fait de d'avoir une politique qui remette ces sujets au centre de nos priorités, d'abord, ce n'est pas qu'un discours, on s'en est donné les moyens. La BPI fait un travail absolument formidable.
Absolument.
Il y a l'éclosion d'entreprises et de secteurs absolument phénoménaux. Et pardon, les statistiques en rendront compte dans 3 ans.
Ah, il y a un auditeur qui m'écrit « Meilleure émission éco », c'est sympa ça. Marie-Sophie me dit « Je suis vieille, entre guillemets, je ne demande qu'à travailler, il faudrait établir une sorte de parité avec des quotas », pense-t-elle. 37 ans de socialisme anti-entreprise ne s'effacent pas en un quinquennat ou deux, m'écrit Pascal. En France, nous n'aurons jamais de mine de fer pour l'acier des compresseurs, monsieur Vronsky. Bon, on ne pourra pas être souverain avant tout, vous voyez ce que je veux dire.
C'est... Non, mais l'idée, ouais, c'est, non, mais les... c'est pas d'être souverain avant tout, bon. c'est de ne pas être frappé d'optimisme béat.
Le Gilles, bravo.
Alors, il y a Léonidas qui vient de dire dans 3 ans, les chiffres sont là. Je suis certain que non. Donc, rendez-vous dans 3 ans. Et pourquoi je suis certain que non? Parce que, évidemment, tout ce que vous dites, c'est vrai. Effectivement, merci, il y a un changement. Non, mais il y a un changement d'attitude. Il y a tout un tas d'instruments qui ont été mis en place. Le problème, la première réfutation de votre démonstration, c'est que cette politique, elle est vieille. Elle est du tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était explicite. Le cœur de son projet économique, c'était de faire venir des investisseurs étrangers. C'était sa première justification de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la baisse de la fiscalité sur le capital.
Ça a eu des effets. On a vu les investissements directs étrangers augmenter.
Bien sûr.
C'est ce que je dis, Nicolas. Oui. C'est que on ne peut pas dire, pour reprendre un grand ancien, on va donner du temps au temps, comme si on parlait du discours de politique générale de Gabriel Attal. Cette politique d'attractivité, cette fameuse politique de choisir la France, elle est au cœur du projet d'Emmanuel Macron depuis bientôt 7 ans. Et le fait est qu'effectivement, il n'y a aucun espèce de frémissement de l'emploi industriel. Dont
frémissement.
La part...
Il y a un frémissement.
Non, mais on veut. Mais... J'ai bien compris. Vous savez, il y a une phrase très importante dans la psychologie positive, c'est « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous voyons les choses comme nous sommes. » C'est-à-dire que, puisqu'on a tous décidé qu'il y allait avoir la réindustrialisation, dès qu'il y a une usine qui crée 10 emplois, c'est la fête au village. Bon, la réalité macroéconomique n'est pas du tout celle-là. Je vous donne un exemple concret microéconomique. Lorsque le constructeur de voitures chinois BYD, BYD, ce qui veut dire Build Your Dreams, choisit un pays européen pour construire une méga usine.
La Hongrie.
Il est en concurrence entre la France et la Hongrie. Mmh. Bruno Le Maire se rend en Chine. Et effectivement, vous m'avez spoilé ma blague, monsieur Dose, les Chinois ont choisi la Hongrie. Hey. Que se passe-t-il? Nous sommes dans une zone de libre-échange, bien sûr, avec la Hongrie. C'est l'Union européenne. Quel est le rapport entre le salaire minimum français et le salaire minimum hongrois?
Je crois que c'est 380 euros en Hongrie ou un truc comme ça.
De 1 à 3. De 1 à 3.
Dans les 400 euros par mois.
S'il pour, y a le prix, en... pour le prix d'un ouvrier en France, vous avez 3 ouvriers en Hongrie qui n'ont aucune raison d'être moins productifs. D'accord? C'est impossible. C'est des maths de CM2. Donc vous pouvez continuer vos grands discours. Moi, ce que je voudrais juste vous rappeler, c'est ce que j'explique à mes étudiants. Hein, historiquement, pardon, mais quand même qu'on prenne un peu de hauteur. On sait que l'industrie, c'est ce qu'a créé la classe moyenne. Parce que dans l'industrie, les salaires sont plus élevés.
Oui, absolument.
Ça, c'est on bien. Sait que dans l'Allemagne des années 20...
Et comment on sort de cette histoire? On ne va pas multiplier par 4 le salaire minimum hongrois. Donc, et on ne va pas imposer à BYD d'aller s'installer à Valenciennes.
Bah, je vous laisse conclure. Mais en tout cas,
je conclurai du tout. Mais
Non, mais moi je vous laisse conclure. On continue dans ce discours BA. Je voulais juste m'en tenir au point de vue macroéconomique. Le bouclage macroéconomique, et c'est très bien rappelé dans un article d'Elsa Conessa dans Le Monde qui s'intitule « La France ne peut pas concurrencer avec les pays à bas salaire de l'Union européenne ». De l'Union européenne, c'est que le bouclage macroéconomique, pardon messieurs, est désastreux. Parce que, chiffre Rexecode, institut patronal, toutes les baisses du coût d'Emmanuel Macron, c'est 50 milliards d'euros en moins par an, dans les caisses de l'État.
Les baisses de quoi, de?
Toutes les baisses de coûts de fiscalité sur le travail, etc. C'est 50 milliards de perdus chaque année.
On va jamais concurrencer des Hongrois. Alors, effectivement, pas concurrent. Oui. On a fini, on a 30 secondes.
Ah bah 30 secondes.
On va pas refaire l'histoire. 30 secondes.
Alors déjà, moi, je me reconnais pas dans le discours BA, parce que moi, je passe mes journées sur les marchés internationaux, pas regarder des écrans et analyser des rapports. Donc déjà, je me reconnais absolument pas dans ça. Deuxièmement, je pense que effectivement, c'est pas la France qui va concurrencer le reste du monde sur la production des t-shirts, mais il y a des tas de choses.
Mais là, c'est sur les voitures.
Il y a des tas de choses à très forte valeur ajoutée sur lesquelles on peut se défendre. Et moi, encore une fois, je dis très modestement, je suis l'incarnation de ça. Bon, et donc on est aussi en concurrence avec des tas de pays à bas coût. Il n'y a pas qu'en Hongrie. Maintenant, celui qui est impitoyable, le décideur ultime, c'est pas le chef de l'État, c'est pas le ministre de l'économie, c'est le consommateur. Donc, si le consommateur valorise tout ce qu'on vient de dire, discours BA compris, eh bien, il changera de produit au rayon et il ira à la bonne caisse. C'est aussi simple que ça.
Merci. J'ai envie de relancer plein
c'est
de
concis,
trucs.
Hein.
Je m'arrête.
30 secondes.
Ouais, mais je m'arrête parce que sinon je vais encore griller 2 minutes. Merci Leonidas Kalogeropoulos, Gilles Raveau et Laurent Vronsky. Rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.